tout le monde. Spectaculaire commence aujourd'hui, ce mercredi 9 décembre 2015. Il est un peu plus de 14h02. Émission numéro combien 83, je crois. Christophe Rollin est au micro. Gérald est bien aujourd'hui présent. Et puis nous avons même deux invités. Peut-être un troisième sera-t-il là dans quelques instants. Il s'agit de François et Sylvie qui vont nous parler de la revue Mercure Liquide qui a sorti ces derniers jours. C'est très récent, un numéro 11. Après une petite pause avant le numéro 10 qui était sorti il y a 6 ans. Ils sont là donc pour nous parler du relancement, du nouveau lancement de cette revue Mercure Liquide pour évoquer bien cette sortie de ce numéro. Peut-être parlerons-nous même du numéro 12, les 13, 14 qui seront à venir un peu plus tard. L'émission, comme toujours, dure jusqu'à 15h. Il y aura, je crois, le blues des Canus tout à l'heure. Oui, peut-être possible à voir. Vous nous écoutez sur Radio Canus, vous avez tout à fait raison, le 102.2 de la bande FM ou bien radiocanus.org. Et ce que vous allez entendre maintenant, c'est un premier titre, un extrait de l'album de Jimmy Page et Robert Plant, No Quarter. On va écouter Cachemire parce que François nous l'a demandé. C'est très bien, on lui posera une première question. Pourquoi écouter ce Cachemire? Voilà, c'est parti jusqu'à 15h. Et et ça pourrait continuer encore 8 minutes, je crois, ou peut-être même 9 minutes comme ça. Le titre Cachemire, extrait de l'album No Quarter de Jimmy Page et Robert Plant. C'est François Desautels qui nous en ont pas demandé, qui nous a indiqué que ça pouvait être intéressant de passer cette chanson. On va lui demander pourquoi. Et puis Sylvie Milzac nous a pas vraiment remis de CD, donc on lui posera cette question, peut-être justement pourquoi ne pas nous avoir remis de CD avec la musique à diffuser. Gérald,
bonjour à tous d'abord.
Tu as tout à fait
bonjour.
Raison.
Et bonjour chers auditeurs. Nous attendons un troisième invité, qui est le directeur artistique de la revue donc Mercure Liquide. Aujourd'hui, l'émission est consacrée à cette ressortie d'une revue que les Lyonnais doivent connaître, puisqu'elle avait déjà publié de nombreux numéros et donné beaucoup d'ouverture au niveau artistique à une centaine d'artistes peut-être. Une revue
littéraire.
Oui, à
peu près sur 5 ans, oui.
Voilà, l'art graphique.
10 numéros et une centaine d'artistes publiés.
Elle s'est arrêtée en 2009.
C'est ça.
Et elle reprend. Donc le numéro 11 est ressorti, est publié et en vente dans certaines librairies dont on reparlera depuis le 30 octobre 2015. Et nous allons recevoir donc toute l'équipe. On va peut-être commencer par Sylvie, ici présente.
Bonjour.
En deux mots, qui êtes-vous, Sylvie ?
Moi, je suis chargée de la partie écriture, faire les interviews, l'édito, et j'essaie de me faire un peu le porte-parole de ce que François Desautels et Rodolphe Besset ont envie de montrer dans cette revue.
Mmh. Vous allez rentrer en contact avec des artistes ?
Oui.
Faire des entretiens avec eux, les remettre en forme.
Alors sur ce numéro, on a fait une interview de Mélanie Scherer, qui est une artiste lyonnaise. Mmh. Une autre interview de Fabien Merel, qui lui est un artiste qui a déjà une renommée internationale, mais qui reste fidèle à Mercure, puisqu'il avait déjà été publié dans le numéro 5, je crois.
Oui,
d'accord.
Au tout début de sa carrière, en fait, il sortait à peine de l'école. C'est intéressant de suivre des artistes, nous on aime bien comme ça, sur quelques années, pour voir un peu ce qu'ils deviennent. Et c'est des gens aussi à qui on s'attache, qu'on connaît bien à force.
Un peu comme nous avec les invités de Radio Canu qui reviennent d'une année sur l'autre.
D'aucuns parleraient de copinage. Non, non, pas du tout. Il ne s'agit pas de cela. Sylvie, évoquons peut-être un peu ce point-là. Vous êtes donc la caution littéraire de cette équipe. C'est, enfin, comment dire, je dis caution littéraire parce que François, vous êtes photographe, c'est ça, graphiste.
Oui.
Rodolphe est également, Gérald, il est artiste.
Artiste plasticien.
Voilà. Donc vous, c'est une formation que vous avez eue d'écrivain, de journaliste, c'est ça?
Ou plutôt de journaliste, qui est plus. L'école par laquelle je suis passée jusqu'à présent.
Formation locale, êtes-vous lyonnaise, oui?
Non, stéphanoise.
Oh, oh là là. Non, c'est parfait.
On pourra peut-être écouter un morceau stéphanois. J'ai prévu, ça tombe très bien.
Mais
je vous le dédicacerai.
Très bien. Et donc Saint-Étienne, c'est terminé vous,
Oui, c'est terminé.
au moins c'est une bonne chose.
C'est jamais terminé, Saint-Étienne.
Non, c'est jamais terminé.
On est stéphanois de cœur toute la vie.
Oui, non, c'est très bien. Que pourrions-nous dire encore, vous êtes, exercez-vous encore en dehors de Mercure Liquide, ou bien vous êtes vraiment très impliqué dans ce projet à plein temps, enfin.
Alors j'essaie d'exercer aussi à côté, mais je suis très impliqué dans Mercure Liquide, qui nous prend beaucoup de temps.
Et puis ça se voit, puisque bon, j'ai d'anciens numéros sous la main, le numéro 7, septembre 2007, 2008, janvier 2008. Et j'ai le Mercure Liquide numéro 11, qui est une revue de 72 pages. Et la nouveauté, c'est que c'est tout couleur, donc tout en couleur, de très bonne qualité, le papier. C'est la page ouverte à 7 artistes qui ont l'air très intéressants et une thématique dont on parlera après.
Voilà, attention Gérald, tu es en train de parler de Mercure Liquide comme si c'était un invité. Non, pas encore. Mercure Liquide, bien entendu, on va en parler. C'est d'ailleurs le principe, enfin disons, c'est d'ailleurs là, ça va être le gros thème, le grand propos de cette émission. Mais pour commencer, laissons la parole, puisque Rodolphe n'arrive pas encore. Passons la parole à François Desautels. Pareil, de la même manière, pourriez-vous également vous présenter en deux, trois mots, et puis alors peut-être revenir à ce titre que nous avons entendu en début d'émission. Vous auriez peut-être préféré sur ce même album le titre « Yalla ». Néanmoins, moi, il me semble que Cachemire parlait un petit peu de cette marocanitude.
Oui, l'univers musical. Moi, ce qui m'intéressait, c'est que c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et cet album-là, précisément, a été enregistré au Maroc, dont je suis originaire. Et voilà, c'était juste un petit clin d'œil.
Natif de Marrakech même ?
D'Agadir. Voilà où j'y suis né, j'y ai grandi. Et je suis venu ensuite faire mes études en France de cinéma.
Ah d'accord, mais alors né et grandi de... et...
Voilà.
Allez, avant les études, ouais. donc c'est quoi? C'est une quinzaine, voire une vingtaine d'années à Marrakech, enfin disons au Maroc.
Oui.
Ah ouais.
Oui.
ça laisse des traces.
Mais mes parents y habitent toujours et j'y suis très attaché, j'y retourne régulièrement.
D'accord.
J'ai une partie de mon travail photographique qui est orientée quand même vers ce pays.
À la base, vous êtes surtout photographe ou uniquement photographe ou plasticien?
Moi, je me considère photographe, mais j'ai différentes compétences selon les projets, ça dépend.
Mm-hmm. Et donc, alors tu viens de dire à l'instant, Gérald, ça laisse des traces. C'est-à-dire, dans votre travail photographique, de quoi s'agit-il? Des paysages, de la lumière, des motifs, des personnes,
Oui, des ambiances aussi. Des ambiances du grand sud marocain, des ambiances désertiques. Mes parents m'ont beaucoup baladé dans ce genre de région quand j'étais petit. Et c'est vraiment ce qui m'a donné envie de faire de la photographie. Et aujourd'hui, j'exploite ça. Et je retourne dans ces endroits régulièrement et j'essaie de restituer, en fait, la magie de ces paysages.
Mmh. Ça passe par des séries ou alors en une photo ou deux photos
Je travaille surtout en série, ouais, je préfère. Ouais. Ça permet de développer le propos.
En numérique?
Oui. Oui, je gaspille beaucoup trop sinon, ce serait pas possible.
Est-ce qu'on peut vous voir en dehors de cette revue? Je suppose que la revue reprend un peu vos travaux, mais exposez-vous ou bien, je ne sais pas, est-ce qu'on peut trouver des tirages?
Non, ces dernières années, je vous avoue que je travaille encore dans mon coin pour moi, mais j'expose plus mon travail en fait. Si mon travail photographique aujourd'hui prend surtout la forme de livres en général, en collaboration avec d'autres artistes, avec d'autres photographes. Là, par exemple, il y a 2 ans, on a sorti un livre sur les traces de la guerre d'ex-Yougoslavie, en collaboration avec 3 autres photographes. Non, pas tous lyonnais. Mais je préfère en fait travailler sur ce genre de projet-là.
Collaboratif toujours, collectif.
Pas forcément, mais la forme du livre en fait m'intéresse beaucoup en photographie.
Mm-hmm.
Ça permet vraiment un travail conséquent, je dirais.
Mm-hmm.
Et voilà, aujourd'hui c'est quelque chose qui m'attire plus que les expos. J'en ai fait pas mal plus jeune. Mm-hmm. Et là, c'est une autre façon de construire quoi.
Je parlais de lumière tout à l'heure parce que, je pense que les auditeurs doivent commencer à le savoir, hein, 83e émission, je suis assez attentif au sens des mots et la technique photographique, disons la photographie, c'est la capture, disons non, c'est pas la capture, le terme graphie, ce serait l'écriture ou l'application, enfin du moins de la lumière. Tophos, hein, en grec, tophotos, enfin photos, le génitif, bref, c'est la lumière, donc il y a une idée de est-ce que cette lumière marocaine, est-ce qu'il y a. On avait évoqué ça, c'était il y a 2-3 semaines, Gérald, avec. C'était.
Le peintre Imhoff.
Voilà, Jean Imhoff, qui lui aussi.
Il vient d'Algérie.
Qui ouais. Voilà en Algérie mais non pour le coup nous disait-il pas trop c'est pas c'était davantage ses visites au musée musée du Prado ça nous avait étonné mais non il y a bien un musée du Prado en Algérie donc c'est voilà ses visites dans ces endroits-là qui lui avaient peut-être qu'il avait déjà déclenché un intérêt pour la peinture vous non enfin voilà cette lumière c'est pas tant parce que moi il me semble enfin Casablanca enfin quand on parle
c'est
de certaines choses
si clairement toute personne qui s'intéresse un peu à l'image vous dira que le Maroc a une lumière dorée assez unique.
Unique au monde.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et tout artiste est marqué par les paysages de son enfance.
Ça a été déclencheur comme le reste, c'est certain.
Y retournez-vous assez régulièrement? Essayez-vous?
Oui, j'essaye.
Des séjours de
tous les 2 ans, tous les 1 an, de 2 ans, ça dépend.
Peut-être, allez, une dernière question, puis on va ensuite écouter Calexico qui, selon vous, François, situe un peu, développe ou brode sur cette atmosphère, cette ambiance de cette revue Mercure Liquide. Vous parliez d'autres photographes, à défaut d'évoquer vos collaborateurs actuels ou des personnes avec lesquelles vous travaillez. Est-ce qu'il y aurait des grands noms de photographes qui vous ont inspiré ou qui vous parlent ou au contraire que vous détestez ou
de pardon
voilà c'est
le livre sur la France là,
le petit jeu préféré mais
le petit jeu du name dropping
on parle d'un immense talent c'est sûr
les quartiers Bresson ou les non enfin il y a ou le Douaneau enfin je sais pas non,
si comme tout le monde bien sûr après des
Valérie Jouve.
Des artistes fondateurs. Moi, je sais que j'ai décidé de faire de la photographie la première fois où je suis venu à une exposition de photos en France, qui était à Chalon-sur-Saône, sur Rodchenko.
Mm-hmm.
Et j'ai pris, j'avais 15 ans, et j'ai pris une énorme claque
ah oui,
dans la gueule.
Lui.
Voilà, le graphisme chez ce photographe, ça m'a vraiment frappé.
Rodchenko, ça n'a pas vieilli.
Après, pendant mes études, il y en a eu des dizaines. Ce serait difficile d'en citer un et pas les autres, je dirais.
Non, mais ça commençait fort avec Rodchenko, quand même.
Et puis, pour terminer, une question, revenons à vous, Sylvie. Pareil, en termes de... Je ne sais pas comment nommer ces gens-là, en termes d'inspiration ou en termes de, je ne sais pas, de goût. Est-ce qu'il y a des écrivains ou des grandes figures journalistes ou journalistiques, ou bien des courants ou je ne sais pas, ou même des titres de la presse actuelle qui vous disent quelque chose dans lesquels vous puisez, je ne sais pas, des motifs, ou bien non, vous avez développé un propre style à partir d'un talent, ou je ne sais.
Non, ce serait prétentieux de dire que j'ai développé un propre style.
Et pourquoi pas?
Non, j'ai pas de,
modèle.
Non, pas de référence qui me vienne.
Si, il y en a un, Sylvie. Les Stéphanois.
Vas-y.
Bah, les Cahiers Intempestifs.
Oui, évidemment, les Cahiers Intempestifs. Non, mais là, effectivement,
ça reste un modèle.
Oui, oui, non, mais là, effectivement, c'est...
Moi, je ne connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est que ces Cahiers Intempestifs?
C'est une magnifique revue...
Artistique,
littéraire aussi.
Très ouverte et très exigeante sur la qualité des rendus.
Effectivement.
Qui s'est lancé.
On a presque peur de prononcer leur nom. Ouais. C'est
intempestif. Ils sont très connus. Hein, et ils font un travail de qualité.
Là, ouais.
Et là, ils se lancent dans un festival de courts-métrages avec du papier, d'ailleurs, bientôt. Mmh. Ils ouvrent ça. Bientôt.
Et dans quel...
On en reparlera peut-être.
Oui. Moi, j'aimerais bien qu'on développe encore un tout petit peu dans quelle veine, enfin du reportage, du
c'est une revue d'art
du texte
à fond la caisse qui n'est pas reliée. Moi, ça, j'ai toujours trouvé que c'était d'une
c'est agrafé ou c'est
non, rien du tout.
Il y en a d'autres qui ont une bonne idée.
C'est un papier magnifique et en fait, les livrets sont juste pliés en deux. Ils sont pas reliés.
Voilà.
Ils sont reliés dans une boîte, en fait.
Oui, c'est toi, Gérald, tu aimes bien le 1 qui fonctionne.
Oui, parce que bon, il fallait y penser, c'est tout bête, mais moins, quoi.
Avec une production régulière, oui, il y a une fréquence.
Oui, ça fait longtemps. Hein.
Oui.
Les Cahiers Intempestifs, eh bien...
C'est une institution.
Hein. Il y a la revue 21 aussi, qui est pour moi un modèle. Mais le truc, c'est que...
C'est Patrick de Saint-Exupéry, je crois, c'est ça? Il me semble, le journaliste qui issu du Monde, je crois, qui a lancé ça il y a peut-être 10 ans, hein, ça commence à... un peu moins.
Avec des nouvelles,
mais pas loin.
Une revue très longueur, très épaisse.
Ouais.
Ouais, très bonne
avec
revue.
Avec une couverture en format à l'italienne.
Puis ils ont lancé un autre semestriel, je ne sais pas comment le nommer, parce que le 21 est trimestriel. Il me semble qu'ils ont nommé... ils ont lancé Photo, je crois, non? C'est pas... Un truc très pareil, un même format, assez volumineux. Et donc vous, ça vous parle. Enfin, c'est François, vous trouvez.
En termes de construction de revue, c'est vraiment le top. Moi, je trouve, il y a une maturité dans cette revue qui est impressionnante.
Et sans publicité.
Il y en a d'autres à Saint-Étienne. Pour revenir à Saint-Étienne, il y a aussi la revue Des Générations, qui est intéressante, qui est beaucoup plus philosophique, esthétique, politique, mais qui fait appel à des artistes régulièrement. Ils en sont assez connus et diffusés. On recevra peut-être un jour, la revue Des Générations, ici, qu'un collaborateur.
Eh bien, nous allons commencer.
C'est la première émission qu'on fait autour d'une revue.
Exactement. Dans quelques instants, nous allons lancer. Alors, peut-être pour commencer, écoutons extrait de l'album de Calexico de Black Light. Écoutons, eh bien, quoi donc, François? Vous m'avez dit n'importe quoi, mais je sais pas, moi, le premier titre, Gypsy's Curse, ou bien le dernier, Frontera, ou je sais pas, Old Man Waltz, Over Your Shoulder, Weinegaun.
C'est un univers global.
Univers global. Bon, alors, on va faire ça.
Allez-y en confiance.
Bon, on va commencer par la première, par Gypsy's Curse, extrait donc de cet album de Calexico. Je crois que ça me dit quelque chose, Calexico, le nom, oui. Après, je sais plus, album qui date de 98. On va situer donc, vous disiez, François, l'atmosphère, enfin, je sais pas comment nommer, ça parle de mercure liquide, c'est ça, vous trouvez?
C'est proche.
Déjà, bon. Oui, c'est-à-dire que moi, j'écoute beaucoup de musique quand je travaille et sur la première période de la revue, comme maintenant d'ailleurs, mais plus avec les mêmes. Mais j'aime bien travailler en équipe sur la mise en page et on travaille toujours en musique. Et ça faisait vraiment partie de ce qu'on écoutait à l'époque. Et pour moi, du coup, ça résonne en fait avec l'univers graphique de la revue.
Bon, eh bien, écoutons
Calexico. On va bientôt parler après le morceau.
Gypsy's Curse, 14h21, c'est très bien, on a encore beaucoup de temps pour parler de cette revue Mercure Liquide qui ressort. Depuis le 30 octobre, ça fait quoi, un mois?
Voilà.
Un mois et demi. Nous mettrons, il n'y a pas de lien, enfin disons, on indiquera tout ça pour en parler et nous donnerons même, Gérald, les adresses des bonnes librairies. Ou
se procurer la revue qui vaut 15 euros, mais qui les vaut, justement.
et on pourrait écouter peut-être l'album entier. Je vois qu'il est bien précisé sur cet album de Calexico, The Black Light. Il est indiqué Total Time, 54 minutes 16. Et vous écoutez donc, François, cela en boucle lorsque vous avez des séances de travail pour cette revue, à peu près, ou disons, ça correspond à quelque chose?
Pas que, parce que vu le temps qu'on y passe, on deviendrait fou, mais oui, ça fait partie de l'univers.
Gérald, de quoi parlons-nous? Allez, alors, rappelle ça, 14h25, 26.
De la revue, de la ressortie miraculeuse, ou pas, je ne sais pas. En tout cas, il y avait un appel à dons qui a bien marché, puisque vous avez eu des financements d'aide.
Très bien, on a monté un projet sur la plateforme de projet participatif Ulule. Mm-hmm. Et on avait, je crois, 45 joueurs, c'est ça, pour financer le projet.
45 jours.
Ah, c'est cool,
vous avez eu 350 donateurs, je crois.
Non, beaucoup moins que ça. Ouais. On a eu 110 à peu près, mm-hmm, pour réunir une somme de départ.
Et vous avez dépassé cette somme de départ, j'ai
constaté. Un petit peu,
mais quand même dépassé. Et donc, quand est-il ressorti ce numéro?
Il a permis de ressortir le Mercure Liquide numéro 11, qui est paru le 30 octobre. Il en reste, il tirera 300 exemplaires. Vous pouvez les trouver dans des bonnes librairies à Lyon, par exemple le Bal des Ardents.
Voilà, la librairie Ouvrir l'œil, la librairie Archipel.
On ne donnera pas
Terre des livres.
Le nom d'une bonne librairie. Enfin, moi, je pensais qu'il
même
refuse.
Même au musée de l'imprimerie, puisque oui. François, il est question que...
Ah, il n'est pas question. En fait, ça a été acté. La revue a été prise par le musée de l'imprimerie pour son fonds documentaire. Elle a été archivée. Et en plus de ça, ils nous ont pris en tant que point de vente pour la nouvelle formule.
Voilà, ça veut dire que dans quelques années, il y aura une exposition rétrospective autour de Mercure Liquide au musée de l'imprimerie.
Souhaitons-le.
Avec des expositions d'œuvres d'artistes, parce que franchement, ça le mérite. J'ai donc sous le nez cette revue de 72 pages de qualité, avec des belles couleurs, où nous avons des travaux d'artistes très différents, alors plus ou moins émergents, plus ou moins reconnus, et qui brillent par leur diversité. Et pourtant, il y a quand même une thématique qu'on devine commune autour, je dirais, de la cité fantastique, de la rétro-utopie ou des choses comme ça.
Voilà, ouais.
Hein, c'est ça. Hein. Donc, on a Aurélie Foussard, qui est photographe, qui propose une série de photographies sur la Chine, avec un texte de Bernard Collet. On a aussi Fabien Merel, qui lui, nous disait, François, est assez connu, histoire naturelle, dessin à l'encre de Chine. On a Mélanie Scherer, assez connue à Lyon, qui expose régulièrement, qui a exposé à la MAPRA l'année dernière, qui a exposé dans différents endroits, qui fait un travail d'encre sur calque et qui est aussi verrière de formation, qui fait des très beaux verres, qui propose un travail très original aussi, très particulier. On a Bulit Balabeni, qui présente Chimney Breath de la sculpture, lui est de formation de forgeron, et qui propose des objets très étranges. Romain Lardanchet présente Zoopolis, des dessins, dans la tradition du graphisme, très pointu, c'est très précis. Ce sont des épures d'architecture, du coup on a toute la précision de la ligne, du trait, de l'espace, de l'architecture, de la perspective. C'est ça qui est assez fascinant, on est dans la tradition des prisons de Piranèse, etc. Harald Schlude, Cities of Perception. Et là on a carrément du digital art.
Oui, c'est un peu un contre-pied, ça. Par
d'accord,
rapport
pour composer, faire des points de parallèle avec les autres.
On a publié des travaux qui sont très minutieux, très dans le détail. Ouais. Alors que le travail Harald vient, moi je trouvais ça intéressant, en contrepoint en fait, avec un travail au contraire très épuré, très informatique.
Et pourtant il y a des points communs aussi quand même. Hein.
Ah oui, bien sûr, on est toujours dans cette idée de vision de la ville, de cité utopique, etc.
Et de rétro-futurisme, on pourrait dire. Hein. On a Mandril, la tour de Babel, hein, c'est flagrant, une magnifique tour de Babel, entourée de montgolfières dispatchées, le mélange d'époque, un magnifique dessin, hein, sans doute inspiré de Bruegel, du célèbre tableau de Bruegel. Bon voilà, c'est très, très beau, je dirais, dans l'ensemble. Hein. De très bonnes tenues artistiques, voilà, ce qu'on peut dire. Et Mandril, c'est vraiment très impressionnant.
Voilà, et donc,
cathédrale des temps modernes, aux ambiances post-apocalyptiques, les mondes de Marc Ferrario, alias Mandril, aspire et engage à la réflexion sur l'utopie urbaine. L'artiste qui vit et travaille à Neuchâtel en Suisse crée des mondes fantastiques ciselés au Rotring et la vie d'encre de Chine. Une patience d'entomologiste à l'œuvre pour observer et épingler l'humanité.
Vous souhaitez dire, François, il me semble, vous aviez, vous appréciez
je
intervenir.
Disais que ce qui est intéressant sur la série de Mandril, c'est qu'on n'a publié qu'un seul dessin. Et qu'en fait, les 10 pages qui suivent sont des détails du même dessin, tellement il est dense et intense.
Foisonnant de détails, de richesse. Hein. C'est vrai que c'est impressionnant. Très, très
quelle taille pour cette œuvre originale? C'est un truc imposant, enfin, des dimensions.
Alors nous, on a reçu un tirage en fait, pour la soirée d'inauguration qui faisait 1m20 par 2m50. Ah, et oui, c'était une réduction de l'original. C'était bien la première fois que j'exposais une réduction.
Oui, bon, ça s'imposait là peut-être. Et est-ce que ça fonctionne comment? Enfin, on pourrait poser peut-être, Gérald, ces grandes questions. Ce nom Mercure Liquide, ah oui, d'où provient-il? On pourrait également reparler des premières années. Et puis, est-ce que ça marche par thématique? Comment, je vous en prie, François, allez, une petite chronologie ou disons une explication Ou même Sylvie aussi, est-ce que vous êtes dans l'équipe depuis les tout débuts? J'ai manqué ça, Sylvie, je
alors
ne sais
non,
plus.
Pas du tout, moi je viens d'arriver sur le numéro 11. Donc
sur ce numéro 11.
Je laisse la parole à François pour...
En fait, je suis le dernier dinosaure à être là depuis le début.
Rodolphe, également, y était-il depuis le début?
Non, lui, il est arrivé en cours de route vers 2006, il me semble, quelque chose comme ça.
Arrivera-t-il en cours de route de l'émission?
On l'espère.
C'est compliqué pour l'instant.
Rodolphe, si tu nous écoutes, n'oublie pas que tu es...
Et donc vous, depuis les débuts, en quelle année, le tout début?
Le tout début, on a eu l'idée autour d'une table dans une cuisine en 2003, et la revue, le premier numéro a été publié en septembre 2004.
Ah, c'est assez... assez rapide, enfin disons assez rapide, ça prend un temps de gestation, mais c'est quand même...
De gestation et surtout, comme d'habitude, de financement.
Et oui. Et alors, comment cette idée est-elle venue? Il faut quelque chose à Lyon,
C'était pas gratuit,
non,
hein. Ça n'a jamais été gratuit.
À l'époque, on
gratuit.
Était petits et puis on voulait devenir un peu plus grand. Je faisais partie d'une association à l'époque qui s'appelait New Eden, qui avait été fondée, par ceux qui s'en rappellent, par Madcap, et qui faisait pas mal de soirées culturelles sur les pentes, etc., qui éditait un petit fanzine. À la fin d'une époque un peu pour tout le monde, je dirais, on a voulu passer à autre chose, et c'est là qu'on a eu l'idée ensemble avec Madcap et Marion Blangenois de fonder une revue un peu plus sérieuse en termes uniquement au niveau de la forme, c'est-à-dire qu'on voulait proposer un support vraiment intéressant pour les artistes et pour les graphistes. Donc on a travaillé autour de cette idée-là, avec dès le début l'envie que ce soit pas une revue à thème, parce qu'on voulait vraiment publier des travaux qui étaient chers, qui étaient personnels des artistes, et pas les contraindre par un thème. En fait, trop de fois, moi, j'ai participé à des projets collaboratifs comme ça, où on ressort des trucs des fonds de tiroir pour essayer de coller tant bien que mal et tout, et du coup, ça sert pas en fait le travail.
Là, c'est partir d'une œuvre,
voilà,
pour faire la revue.
On sélectionnait des œuvres qu'on trouvait intéressantes.
De rentrer dans la revue.
Voilà, ouais.
C'est pour ça que
et
ça
après,
marche.
Et après, on construisait, en fait, on rassemblait un certain nombre de travaux autour d'un fil rouge. On trouvait ça plus pertinent, en fait, de travailler de cette manière-là.
Y a-t-il toujours eu des éditos? Vous disiez, Sylvie, vous en occupez donc maintenant. Ça doit être compliqué, cette partie-là, justement, de d'écrire un texte, de rédiger un texte qui cherche quoi en fait à
Il y avait même des écrits, hein, c'était
à mettre
même
en rapport
revues littéraires et graphiques. Et maintenant c'est revues d'art graphique, donc l'appellation a un peu changé aussi.
Pour cet édito du numéro 11, hein, Sylvie, vous avez procédé comment?
L'idée de cet édito, c'était déjà de...
La ressortie.
Oui, d'expliquer pourquoi la revue ressortait, dans quelles conditions elle le faisait, quel était son intérêt. Puis ensuite d'essayer de montrer la cohérence entre les œuvres choisies, dans leur diversité. Mais...
Il y a une cohérence là, oui.
Mais la cohérence existe et il y a deux directeurs artistiques, donc on peut espérer qu'il y ait une cohérence. Et effectivement, c'était le cas, puis c'était de pouvoir expliquer cela à travers l'édito.
Et donc, alors, revenons à ces années 2004, septembre 2004, le premier numéro sort.
Pourquoi Mercure Liquide? On sait toujours pas.
Oui, alors ça, cette question-là, oui.
C'est un politicien. Il a esquivé la question.
Ouais. On n'a pas posé nettement.
Mon Dieu, Sylvie, on s'en va, ils m'ont traité de politicien.
Non, mais je pense que tu n'assumes pas le titre.
Mais moi, je trouve personnellement que c'est un très beau titre, déjà, qui donne à rêver. Et puis le mercure, c'est magnifique, c'est poétique. Mercure liquide, on a tous exposé
l'idée de base était
la main
assez
et on a vu ça rouler sur le carrelage, fasciné.
Mais c'est cette idée-là, en fait, justement. C'est que un artiste tout seul fait son travail, essaye de l'exposer, etc. Mais le fait de se rassembler permettait de faire, entre guillemets, tâche d'huile et plus faire parler des gens dans la revue, les aider à se faire connaître. Et c'est justement cette idée des gouttelettes de mercure qui se rassemblent spontanément,
voilà,
pour faire une flaque. Voilà. Ça vient de là.
Eh ben, parfait.
Bon, voilà, on a une
mercure,
réponse.
C'est quand même des plus chaudes planètes.
Et puis Mercure, c'est Hermès, c'est le dieu messager.
Voilà.
Eh ben oui, c'est vrai.
C'est le symbole alchimique de la transformation. Après, quand on creuse, on trouve plein de trucs intéressants.
Plus on creuse, plus on trouve.
J'utilisais aussi l'intermédiaire Hermès. Et donc, septembre 2004, premier numéro qui marche, oui.
Il y avait un petit mercure à propos. Public. Hein, il a été piqué une fois, ils ont mis une caméra de surveillance, et puis il a disparu. Maintenant, il n'y en a plus. Le passage de l'Argue, dans le centre. Il y avait un petit mercure, bon. Copié de Jean de Boulogne, oui, il me semble.
Il faudra trouver le coupable. Et donc, revenons, septembre 2004, premier numéro, rencontre-t-il un public? Oui, ça marche, ça crée du buzz.
Ça met du temps. Quand vous faites une revue et que vous avez 23 ans, vous ne connaissez pas grand monde. Donc, tous vos copains viennent, ça c'est sûr. Mais non, forcément, ça a mis du temps à se mettre en place. Sur les trois premiers numéros, il y a eu de l'amélioration, mais c'est vraiment à partir du numéro 4 où ça a commencé à bien marcher.
Et pour quelle raison? C'est la gestation ou c'est que donc Rodolphe est arrivé en cours de route, c'est ça? Ou pas encore, peut-être? Parce que c'est septembre 2004.
Non, il n'était pas...
Pas encore, là.
Mais je pense que c'est l'expérience, en fait.
L'expérience est dans aussi.
On a eu des programmations de mieux en mieux construites, parce que je pense qu'on publiait des artistes intéressants dès le début, mais il faut savoir les mettre en valeur, et donc petit à petit, ça a de mieux en mieux marché.
Donc numéro 4, voilà. Vous-même dites en être assez satisfait. Les 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça rencontre davantage.
J'ai quitté le projet à partir du numéro 8. Il y a les numéros 9 et 10 qui se sont faits sans moi. Et après, ça s'est arrêté en 2009.
9, vision, oui.
Voilà. Et là, du coup...
Pour quelle raison? Vous parliez de financement tout à l'heure, ça peut être lié ou un arrêt aussi, une aventure arrivée un peu à son terme? Enfin, disons, on sûrement considérait
oui,
peut-être...
Je pense qu'on avait tous besoin de passer à autre chose à ce moment-là. Et puis finalement, non. Finalement, rechute.
Et donc, 6 ans après, alors c'est vous qui êtes à l'origine de cette nouvelle sortie où on vous a plutôt contacté? Comment ça a marché?
C'est Rodolphe qui est venu me chercher, en fait. C'est Rodolphe qui est venu me chercher, qui m'a proposé le projet, mais après, je vous avoue que j'ai dit oui tout de suite. Moi, ça me trottait dans la tête, j'étais bien conscient que c'était pas le genre de choses que je pouvais relancer tout seul, mais à partir du moment où je savais que lui, ça l'intéressait aussi, et je savais qu'à deux, on pouvait faire quand même une partie du boulot, j'ai dit oui tout de suite.
Et vous êtes 3 et vous étiez 11 avant, je crois.
Oui, c'est ça, oui.
Donc l'équipe s'est allégée pour des raisons de fonctionnement économique, j'imagine, ou de la
coïncidence. Il y a des avantages aussi. Et des inconvénients dans les deux, oui. On avait une force de frappe à l'époque qui était assez impressionnante, mais par contre, on était incapable de prendre une décision sans s'engueuler pendant 2 heures, vous voyez.
C'est compliqué, le collectif.
Alors qu'aujourd'hui, justement, on s'est organisé pour être avant tout efficace et pas dans des délires utopiques.
Vous diffusiez à combien dans les années 2007-2008?
500.
Ah, 500.
Mais on mettait un an et demi à écouler un numéro complètement. Un an et demi, deux ans.
Mais vous l'écouliez, ce qui est déjà énorme.
Ouais.
Puisqu'il y a beaucoup de revues sur le marché, il y a beaucoup de concurrence. Déjà chez les artistes, hein. Après dans les revues, il y a beaucoup de revues qui vivotent, qui survivent. On se demande comment elles perdurent, mais elles y arrivent. Donc c'est un milieu, les revues, qui est assez compliqué aussi. À Lyon, il y a pas mal de gratuits, je vous rappelle une époque. Ça existe peut-être toujours. L'équipe Line, des compagnies. Il y avait pas mal de revues gratuites.
Ils sont toujours là. Hein, ils font très bien.
Bon, un peu trop de publicité, malheureusement.
C'est une autre façon. Non, je sais pas.
Des choses intéressantes, mais c'est vrai.
J'ai rien contre les gratuits ou contre.
Oui, oui.
C'est une autre économie et c'est une autre façon de publier son travail. Moi, ça me. Je défends pas ce modèle-là, bec et ongle.
Mais oui, moins pollué dans la publicité.
Mais justement, voilà, nous, on voulait amener ça, quoi. Il n'y a pas non plus de. On s'est toujours refusé à donner notre avis, si vous voulez. C'est pas une revue de discours. C'est une revue qui présente des travaux, vous en faites ce que vous voulez.
Qui laisse les gens réfléchir, apprécier ou pas.
Il faut nécessairement poser cette question. Est-ce que ça peut vraiment exister, ça? Une sorte d'objectivité totalement impartiale.
Non, dans le choix des artistes, déjà, c'est pas possible.
Ah non, puis c'est pas intéressant.
Vous dites, on ne veut pas tenir de discours. Est-ce que le discours n'est peut-être pas tenu avant même que vous pensiez ne pas
en tenir? Oui, par la ligne éditoriale, mais ça s'arrête là. En fait, après, c'est, si vous voulez, même le thème n'est pas dit ni dans l'édito ni nulle part. Tout à l'heure, vous parliez du thème de ce numéro-là.
Oui.
Tout le monde est d'accord
J'en
avec.
J'en ai projeté.
Quand tout le monde nous dit la même chose, donc nous, on considère que notre boulot est réussi.
Voilà.
Mais on ne vous l'a pas dit, c'est vous qui l'avez dit.
Voilà. Les artistes sont bien choisis.
Ça passe par des propos. On a bien aimé votre numéro sur tu disais, Gérald, sur les. les utopies sur
le rétrofuturisme et les utopies architecturales.
Les villes, hein, villes imaginaires, non ?
Voilà, enfin, villes visionnaires, etc. Il y a une belle expo à Paris, d'ailleurs, au Petit Palais, en ce moment, sur l'estampe visionnaire, avec des merveilles. J'ai vu le catalogue, hein, j'ai pas vu l'expo, mais alors ils ressortent tous les grands classiques de la gravure 19e, depuis Redon, de Goya à Redon, je crois, avec des inconnus et des estampes d'une beauté fabuleuse.
Et alors, revenons plus précisément à ce numéro 11. Donc, cette ressortie a eu lieu, enfin, le 30 octobre. C'est l'année 2015 qui a été, donc, premier semestre, qui a été assez chargé pour remettre tout le monde, trouver des gens pour les mettre au boulot, enfin, du moins, recruter Sylvie. Enfin, je sais pas, ça ne s'est pas produit, je suppose, que dans les 45 jours de votre collecte crowdfunding
financement participatif, progressivement, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a commencé à en discuter avec Rodolphe, au début, on se contentait d'en discuter, de se mettre d'accord sur certains points, sur ce qu'on voulait changer, sur ce qu'on voulait conserver. Après, durant l'année, j'ai recruté Sylvie, qui en fait est une de mes anciennes élèves d'une formation infographie que je menais.
C'était une bonne élève, oui.
Oui.
Très bien.
Et en fait, on voulait être vraiment prêt et savoir vraiment ce qu'on voulait faire avant de le faire. Chose qu'on ne faisait pas justement sur la première période. À partir de là, quand on s'est vraiment mis au boulot, et ça a été assez intensif, mais assez rapide. C'est-à-dire qu'en, je sais pas, je dirais en 2 mois de temps, le numéro était... ça faisait des mois qu'on tournait autour de la sélection d'artistes, qu'on discutait avec eux, la sélection des images, etc. Après, la construction du numéro, vraiment, une fois que tout était prêt, oui, ça a été assez, assez rapide, ouais. Puis nous, on voulait rester un petit peu dans le rush aussi, je pense, pour continuer à battre le fer tant qu'il était chaud. On avait commencé à en parler aux gens, donc il fallait que ça sorte rapidement, quand même, pour pas frustrer le public.
Alors ça, c'est très intéressant d'avoir le discours de la... du responsable, on pourrait dire, tout à fait, enfin, comment dire, du patron, enfin,
non, directeur graphique,
le terme de patron, mm-hmm. faut peut-être un peu éviter, du boss. Et pourrions-nous avoir le discours de Sylvie, vous qui êtes venu,
le directeur artistique visiblement ne viendra pas,
vous qui avez rejoint le projet, qu'est-ce qui vous a plu dans ce que vous a dit votre ancien prof, donc nous parlons de François, ça vous a parlé, enfin, comment dire, il y avait des choses qui vous disaient, qui vous plaisait ?
Bah déjà, le fait que ce soit mon prof est un argument, puisque je connais son travail. Et que la qualité de son travail était quelque chose qui, évidemment, ne faisait aucun doute. Ensuite, j'ai vu les anciens numéros. Ensuite, on a parlé des attentes sur ce numéro 12 et sur les prochains. Et tout ça était très, très cohérent. Mm-hmm.
Et stimulant.
En fait, il est très fort aussi pour motiver les gens. Ah.
Mince, il va falloir qu'on ressorte ce terme qu'on employait tout à l'heure, des politiciens. Bah, il y a quand même un orateur, attention. Voilà, disons un orateur.
Il faut dire exactement. Aussi que cette revue ouvre donc ses colonnes, ses pages, ses 72 pages, à des artistes de tous bords qui peuvent contacter la revue, envoyer éventuellement des dossiers pour peut-être être publiés aussi.
C'est même conseillé. C'est ce qu'on souhaite, bien sûr.
Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, souhaite. C'est une revue ouverte sur l'extérieur.
Sur le site internet, par exemple, il y a toute la démarche pour pouvoir nous présenter une série.
Voilà. Mmh. Et puis sans chapelle, en échappant à des modes qui sont justement toujours un peu brèves et un peu surfaites. Donc vous êtes trans-mode.
On essaye après.
Fait mode, c'est avant tout la qualité artistique.
On n'est jamais objectif.
Intempestif, intemporel, c'est ça ? Il y a un peu de... On rejoint
indépendant,
ouais. Ça c'est très bien.
C'est déjà bien.
Peut-être pourrions-nous faire une sorte de pause pour reprendre un peu de souffle. Moi, il me semble qu'il faudrait encore entrer plus dans le détail. Quel est le format de cette revue ?
Rectangulaire. Mais quand même rectangulaire. Eh ben voilà. On va dire que alors, ça fait du 10.
Ça, c'est les anciens que vous regardez.
Ouais, 10-15.
Prenons une pause. Gérald, on écoute Catherine Ringer. Gérald.
Alors, 21 par 21.
Rock and roll.
Catherine Ringer, chanson punk.
Chanson punk.
J'ai choisi ça parce qu'il y avait elle parle des couleurs et puis je l'avais vu en concert, c'était bien.
Et donc tu trouves que c'est en rapport avec
ça parle des couleurs,
avec la revue.
Bon, la symbolique des couleurs.
14h45, encore un quart d'heure pour discuter de Mercure Liquide numéro 11, une ressortie, et on va encore entrer plus dans le détail sur, je ne sais pas, les, comment sont indiqués les numéros de page, la typographie, le format, là, on va le répéter 21-21. Restez bien, vous avez tout à fait raison de nous écouter sur Radio Canu 102.2 de la bande FM ou bien radiocanu.org, internet ou bande FM à Lyon, tout est possible.
Par les yeux, ouais, c'est le bleu. Ah, ah, le bleu, mais ça me saoule, ça me fout les boules. Ah, le bleu n'aime personne, non, le bleu n'en aime personne. Il s'en fout et il cogne quand il se fout en rogne. Non, c'est le rouge, c'est du rouge qui déborde par sa bouche pleine de dents. Ah, c'est le rouge plein de sang, le rouge. Personne, non, le rouge n'aime personne. Il s'en fout et cogne quand il se fout en rogne.
C'est le rouge.
C'est du jaune, tout dit qu'il soit d'or pur, comme la saleté de monnaie. Car le jaune n'aime personne, non, le jaune n'aime personne. Il s'en fout et il cogne quand il se fout en rogne.
Ouais.
C'est vrai que le vert aussi, le vert, c'est vraiment crade. Seigneur, mes viscères, c'est du vert, de vert de terre. Ah. Hey, le vert n'aime personne d'ailleurs non plus, le vert n'aime personne, il s'en fout et il cogne quand il se fout en rogne.
Mais le vert.
Gérald, pourquoi ce titre? Parce que là, ce n'est plus Rodolphe qui
assure. C'est pour les couleurs.
Formation musicale.
Et pour la belle voix de Catherine Ringer. Et puis ce groove là, un peu.
Bon, ça t'a semblé très Mercure Liquide,
ben,
c'est
pourquoi
ça?
Pourquoi pas, oui, très Mercure Liquide.
Numéro 11.
Voilà. Alors je vais vous lire, chers auditeurs, le texte de Sylvie, qui sert d'éditorial, justement, à la revue Mercure Liquide, qui est ressortie depuis le 30 octobre, numéro 11.
Sylvie, qui est présente avec nous, ainsi que François, voilà. Le directeur artistique, graphique, responsable, enfin bref.
Donc l'arrêt de Mercure liquide en juin 2009 a laissé un vide. Il était temps de le combler. Avec le numéro 11, la revue graphique lyonnaise revient en force. Du nouveau, d'abord avec une formule de 72 pages entièrement couleur au lieu de 24 sur 84 pages précédemment. Un concept ouvert à la création artistique contemporaine, qu'elle soit connue et reconnue ou à peine émergente et en quête d'espace d'expression. Au moins un entretien avec un artiste sera proposé dans chaque numéro pour aller plus loin dans le bouillon d'idées que l'équipe entend initier. Près d'une centaine d'artistes ont été publiés dans les précédents numéros de cette famille artistique. Restent des fidèles qui ont répondu avec enthousiasme à la renaissance de la revue singulière. À eux et aux trouvailles qui se dissimulent encore, les pages de Mercure sont grandes ouvertes pour que l'art ait la parole. Loin des modes et des phénomènes convenus, avec pour seul leitmotiv une démarche d'amateur curieux, libre de ses choix. L'art, la poésie, nul n'a plus besoin de l'artiste que, la ville. Les cités fantastiques et les mondes imaginaires sont au cœur de ce numéro 11 de Mercure Liquide. Les visions futuristes de Harald Schlude, El Schlude, y côtoient les animaux mondes de Romain Lartanchet, la nature fantasmée et le vide des dessins de Fabien Mérel, les espaces désertés par l'humain que photographie Aurélie Foussard. L'infiniment grand confronte son regard à l'infiniment petit. Les perspectives et les courbes se répondent. De la Babylone de Mandrill, dont on parlait à l'instant, aux détails infinitésimaux de Bulit Balabini, les artefacts des constructions de science-fiction laissent apparaître des hommes microscopiques. Quant aux architectures du corps que dessine finement Mélanie Scheurer, elles inscrivent un univers à part entière. Poétique et esthétique, le lien se tisse au fil des pages de ce numéro 11.
Bah, très bien. Donc numéro 11, ce que nous disions, dont nous parlions à l'instant, pour se caractériser ce format assez particulier.
Et il faut parler de la couverture.
Oui, effectivement, je voulais citer le nom de Raphaël Lacoste, qui est l'artiste, qui est l'auteur de la couverture du numéro 11.
Couverture troublante.
Qui est...
Politique. Non, pas politique. Esthétique.
D'actualité, peut-être.
Civique.
Allez, c'est une peinture, c'est... Non, c'est pas trop.
C'est une illustration numérique.
Numérique.
Oui.
D'accord. Et qui est ce monsieur Lacoste, alors?
C'est le, enfin, un des directeurs artistiques à Ubisoft. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé sur des projets comme Assassin's Creed.
Oui, c'est ça, jeux vidéo. Et c'est lyonnais comme Infogram ou c'est,
Non, à la base, c'était à Montpellier, il me semble.
Oui, enfin, en tout cas, c'est Infogram, je crois, la boîte de Bruno Bonnel, mais il n'y est plus, hein, il me semble, ça fait quelques années. Il avait lancé un truc en septembre qui a un peu capoté sur M6, nouveau manager ou je sais plus quoi, un truc dans le genre. Enfin, bref.
En tout cas, cette couverture est très réussie, elle ne vous échappera pas.
Un format carré, parce que ce format carré permet de mieux représenter, de mieux jouer sur les différents formats qui peuvent vous être proposés.
Effectivement, vu qu'on est susceptible de recevoir et de publier des travaux de formes très différentes et surtout de proportions d'images très différentes, le format carré était le format qui permettait de les accueillir dans les meilleures conditions, c'est-à-dire qu'elles soient le moins réduites en fait.
Et celui-ci, le 21 par 21, c'est la bonne formule, oui. Plus grand, c'était peut-être difficile, plus petit, c'était trop...
Moi je voudrais toujours plus grand, mais on me dit toujours que plus grand, c'est plus cher, donc il faut trouver un équilibre. Mm-hmm. Et puis il rentre dans le sac, celui-là. Sinon, moi, je vous en ferai des 1 mètre par 1 mètre, hein, sans problème.
Après, compliqué à...
Pour ce qui est de la typo, bah, elle est très bien, elle est classique, elle est très lisible. Et vous disiez hors antenne que la typographie, c'est pas trop votre préoccupation, en fait.
C'est plutôt... Non, c'est pas que c'est pas ma préoccupation. On peut pas être graphiste et pas être préoccupé par la typographie. Par contre, je dirais que c'est pas le
cœur.
La priorité du projet de la revue, y compris en termes de mise en page. On cherchait une typo assez pratique, mais assez neutre, pareil pour qu'elle puisse s'intégrer un petit peu partout, sans dénoter par rapport à des travaux qui peuvent être potentiellement très très différents les uns des autres.
Voilà, et puis ça fait une unité, et puis vous n'avez pas changé de typo à chaque numéro, en plus vous allez la garder, quoi.
Ah oui, non, ça il faut pas. Ouais.
Une identité d'une revue, la typographie, c'est important. Et si nous parlions de ce site internet, alors?
Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le site internet.
Bah, ça tombe bien, il reste l'adresse. Quelques minutes.
L'adresse, il en faut le...
Mercureliquide.com.
L'URL, oui.
Oui, mercureliquide.com.
Facile.
Et c'est un site en devenir parce que on est en train de travailler en fait sur un assez gros projet pour le développer. Parce que bien sûr, comme tout site de revue, on présente un catalogue, on présente les archives des anciens numéros, etc. Une plateforme de vente de la revue. Mais en plus de ça, en fait, on voudrait pouvoir aller plus loin en fait dans notre relation avec les artistes et avec le public. Si vous voulez, régulièrement, des gens qui aiment bien la revue m'ont dit « Mais ce numéro-là, il est super, mais je voudrais arracher cette page-là et la coller dans ma chambre. » Donc, on va proposer ça. En fait, on va proposer aux gens, par le biais du site,
de récupérer des images de qualité,
sélectionner
pour les imprimer,
des artistes, voilà, sélectionner des
et
séries,
les acheter en ligne,
voilà.
C'est une, idée.
Une galerie
une
d'art,
sorte de plateforme de galerie.
Enfin, virtuelle. Galerie d'art, non, parce que c'est pas des galerie originaux, virtuelle. Mais voilà, on vend des reproductions.
Intéressant, ça, comme concept.
Voilà, et ça, c'est prévu pour être mis en place d'ici 6 mois.
D'accord. Avec le numéro 12 qui sortira aussi, le nouveau numéro.
Voilà. Fin
on va dire que vous êtes une revue semestrielle, en gros.
Oui, tout à fait.
Instant. Ouais.
Alors, le numéro 13,
s'y accrocher.
Le numéro 13 sortira également en 2016, oui. Fin d'année, ce serait, c'est ça?
Voilà, ouais. Vers fin octobre.
Et après, si tout continue, on peut même aller vers un abonnement proposé sur plusieurs années, les abonnements 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou abonnement 1 an seulement à 2 numéros. Tu rappelais tout à l'heure, Gérald, le prix? 15 euros, c'est ça? C'est bien et c'est important parce que moi, je tiens à ce que nous le répétions, surtout sur Radio Canu, il n'y a pas de pub. Il n'y a pas de publicité. On parlait de 21 tout à l'heure, c'est quand même très bien. On parlait également du 1, c'est quand même
une
assez intéressant.
De grande qualité.
C'est produit, enfin non, j'emploie un terme qui est peut-être péjoratif, c'est intéressant, ces œuvres. On peut peut-être nommer ça œuvre, enfin le 1, je ne sais pas si c'est vraiment une œuvre, mais c'est choses qui sont sans pub, enfin qu'on ne nous indique pas. Ouais, achetez le dernier CD, le dernier aller au cinéma, prenez également tel produit pour vous laver le matin et vous laver les dents, vous laver la bouche et puis vous laver les pieds, n'importe, et oh mince, ça va.
C'est un problème.
Ah non, mais c'est quand même assez insupportable. Donc Radio Canu, auditeurs, continuez de nous écouter, il n'y a pas de publicité. Écoutez également, enfin lisez le 1, lisez donc
Soutenez
Mercure Liquide.
La revue Mercure Liquide. Et offrez à Noël Mercure
voilà.
Liquide.
Le soutien, c'est en fait l'achat. Ulule est terminé, vous ne lancez pas d'autres projets de financement participatif, il n'y a pas d'autres... Alors bien entendu, si on peut...
Ah non, maintenant, si vous voulez que Mercure Liquide continue à exister, il suffit de l'acheter.
Et l'offrir peut-être, en acheter plusieurs exemplaires.
Et le lire.
Et le lire, ah bah oui. Mais alors le lire justement, il y a peu de texte, hein, c'est ça. Enfin, vous disiez Sylvie, c'est l'édito que vous avez notamment rédigé, et puis quelques.
Et les deux interviews.
Comment appeler ça? Voilà, les interviews des cartons. Y en a-t-il un petit peu? Non, il y a pas de.
Plus présentation aussi de chaque artiste. Oui. Sur
ah
bah
alors, ça fait quand même de la matière à écrire. Enfin, le numéro 12 vous sollicitera également beaucoup. Les interviews sont prêtes, disons à préparer encore. Les artistes sont rencontrés presque.
Presque.
De toute façon, il reste encore du temps pour d'ici la fin avril. Qu'est-ce qu'on peut encore dire, Gérald, pour en parler? Parce que moi, j'ai peut-être 2-3 petites annonces à faire. Tu vas te rendre à l'Opéra, je crois, ainsi qu'au Théâtre de la Croix-Rousse pour écouter de la musique classique. Voilà, Offenbach. Le Roi Carotte, ça, c'est la semaine prochaine. C'est samedi 12, première. Et puis toi, tu t'y rendras, je crois, le lundi 14 et puis le mardi 15.
Et puis mercredi prochain, on recevra
Anne Meillon, co-directrice du Théâtre de la Croix-Rousse pour un autre spectacle d'Offenbach, mais en liaison avec l'opéra. Ce sera Mesdames de la Halle, qui est donnée au Théâtre de la Croix-Rousse. Et le Roi Carotte, c'est à l'opéra. C'est le programme de fin d'année.
On change complètement de Mercure Liquide la semaine prochaine. On revient à l'opéra et à Offenbach en plus. C'est quand même
à de la musique
particulier.
Et puis moi, s'il reste encore peut-être 30 secondes, est-ce que je pourrais réannoncer, tu te rappelles, Gérald, ce que j'avais dit, ce dont j'avais parlé la semaine dernière? Une information qu'on m'a transmise. Le groupe Graines d'Anard vous invite samedi 12 et dimanche 13 décembre à découvrir je ne me suis pas renseigné pour la prononciation, Jean Mélier, 1664-1729, fut le premier penseur de l'athéisme à en offrir une théorie achevée. Il consacra les dernières années de sa vie à écrire sa pensée plus radicale que celle de tous les penseurs des Lumières après lui. Il a dénoncé les religions et toutes les superstitions comme des outils pour abuser les peuples. Il est le seul penseur au XVIIIe siècle à prôner une société égalitaire dont la réalisation passe par l'action révolutionnaire des masses. 14h30, première conférence, 15h45, 17h, au chapeau, l'entrée, mais c'est à prix libre, ça se trouve à la rotonde de l'INSA, la salle René Char, et on en parlait la semaine dernière avec Philippe Mangenot. Et puis j'y pense également, il y a un goûter radiophonique ce samedi 12 décembre, et là j'ai mangé le lieu et l'horaire également. Toi aussi, hein, Gérald, t'as tout mangé.
Mais puisqu'on est dans
Radio Canus,
la propagande politique, j'invite les auditeurs à lire l'article qui est sorti dans Libération.
Oula.
Lundi 7 décembre.
Là, esthétiquement, c'est pas très beau cette une. C'est qui? C'est quoi?
C'était une sale gueule qui est apparue à la télévision. Bon, donc un texte collaboratif écrit par Oser le féminisme, les chiennes de garde, les effrontées et les fémènes. À l'approche de Noël, donc le titre est Noël, refusons la ségrégation par le rose. Donc c'est un article qui fait le point sur la fabrication du marché des jouets à l'approche de Noël. Et qui pointe du doigt ce marché déplorable de conditionnement des enfants par le jouet à travers le code des couleurs, Pastoureau nous rappelait hier sur une autre radio concurrente de la nôtre que la dichotomie rose-bleu en fait était inversée puisque ça daterait des puritains d'autour de 1860 avec ce code couleur, hein, le rouge étant la couleur virile par excellence, aurait été un peu rendu plus légère avec un apport de blanc pour faire un rose. C'était pour les petits garçons le rose il y a 150 ans. Et le bleu, la couleur virginale, mariale par excellence, plutôt mariale que virginale d'ailleurs, mais bon, ça c'est un vaste débat théologique, aurait été donné aux filles. Et tout cela s'est inversé. Le code couleur est resté le même, mais complètement inversé. C'est pour ça que le rose est devenu pour les petites filles et le bleu pour les petits garçons. Mais on arrive à des horreurs. Je vous lis un extrait. Pour doubler son chiffre d'affaires, l'industrie du jouet décline des jeux en rose et en bleu, ben, ça on le savait déjà, enfermant filles et garçons dans les rôles totalement périmés. On s'en aperçut, mais on est en pleine régression. C'est pire que dans les années 80, plus de jouets unisexes, enfin voilà, si on n'est pas qu'en régression qu'à ce niveau-là, malheureusement. Donc les Lego Rose Friends cantonnent les filles à la maison quand les garçons construisent immeubles, hôpitaux, ponts et vaisseaux spatiaux, c'est bien connu. Même le Monopoly est décliné en rose avec les banques et les hôtels remplacés par des ongleries et des magasins de lingerie. Voilà, on en est. Nous nageons effectivement en pleine régression.
Tu es venu avec d'autres trucs, Gérald, on dirait également.
Oui, alors bon, pour changer de tous ces jouets en plastique moche, polluants, qui sont très chers, qui ressemblent à rien, qui sont périmés au bout de... Enfin, les enfants, en plus, préfèrent jouer avec l'emballage en général qu'avec ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ça qui est plutôt rassurant. Et à propos d'emballage, si vous voulez faire des cadeaux intelligents, intéressants et pas chers du tout à vos enfants, filleuls et autres neveux, je vous invite à trouver ces petits livres. Je ne dirai pas où c'est, mais vous allez les trouver très facilement, qui sont vraiment donnés. Ce sont des découpages vintage, des jouets en papier pour toute la famille, poupées habillées, maisonnettes, mobilier, des années 50. Il y a des cartes à transformation, il y a des manèges. Vous avez deux livres qui font 4 euros pièce et vous avez des heures et des heures d'activités manuelles, colle-ciseaux à faire en famille, en s'amusant avec des arlequins, des manèges, des camions d'ambulance, des jeeps. Il y a même des chars pour une fois, mais ils sont marrants, ils sont rigolos, ils sont colorés. C'est 13 années 50 et c'est passionnant et c'est pas cher.
Voilà. Et si vous souhaitez, François,
et ça change des jeux vidéo,
offrir des pages de Mercure Liquide, est-ce que c'est déjà accessible en ligne sur le site mercureliquide.com, les pages imprimées ou ça va se faire?
Non, ça va se faire. On est en train de travailler dessus.
Bon, des pages à coloriage. Oui, j'avais peut-être cette dernière question à vous poser. Une ou deux couleurs pour caractériser Mercure Liquide, vous en auriez? Non, c'est un panel. C'est
l'argent, bien sûr.
Il y a pas de couleur.
L'argent du mercure.
Ah oui, oh, attention.
Le noir et le rouge.
C'est l'inox, hein, ça brille, ça renvoie les reflets, le mercure.
Le noir et le rouge.
Inox. Ah oui.
Comme Radio Canu, alors.
Bah, parce que l'image que j'ai de cette revue, c'est plus une bande d'allumés qui joue aux pirates plutôt que quelque chose qui est chromé.
Mmh. Et vous, Sylvie, vous auriez des couleurs aussi pour caractériser. Mais c'est intéressant, je crois que la monture de vos lunettes renvoie bien ce noir et ce rouge. Bravo Gérald, hein, toi aussi, c'est très bien. Noir et rouge, bah allez, on raconte trop d'âneries. Oui. Voilà.
Écoutez, on a parlé beaucoup de Saint-Étienne.
Générique de fond, non, générique de fin. Écoute, Gérald, même si respect des créneaux horaires, même si manifestement le
Alors,
blues des Canus.
On écoutera une balade de fou à Saint-Étienne de Cyan Soupacrou à l'Oignon la semaine prochaine.
Ah, mais c'est les Gaga, non, c'est pas ça?
C'est un petit clin d'œil au Stéphanois.
Même si, auditeur, le blues des Canus ne commence pas à 15h, je n'aperçois pas Pascal. Bon, bah écoutez, je ne sais ce qu'il en est. En revanche, son bâtard ne devrait pas avoir lieu tout à l'heure à 16h ou 17h parce que Loïc a fait une spéciale la semaine dernière. Méga combi à 18h, oui. Ça c'est sûr. À 19h, Canu Info, c'est également sûr. Et puis le reste des programmes, ce sont les bandes continues que vous allez pouvoir écouter maintenant. On a tout dit. Je dis au revoir à nos invités alors. Merci beaucoup.
Merci d'être venu.
Merci à vous.
Merci
et
François.
Longue vie à Mercure
Merci
Liquide.
Sylvie. Longue vie à Mercure Liquide, tu l'as très bien dit. Mercredi prochain, théâtre, c'est ça, et opéra.
Opéra Offenbach.
D'ici là, restez bien à l'écoute de Radio Canu en feuilletant notamment Mercure Liquide, ce numéro 11 qu'on peut trouver un peu partout. Ciao auditeurs, bon après-midi, salut.